Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par la République démocratique du Congo et la catastrophe ferroviaire qui a fait au moins 50 morts dans la province du Tanganyika, aux environs de la localité de Mayi-Baridi. Les morts seraient des passagers clandestins à bord d'un train de marchandises dans le sud-est du pays. Plus de détails dans notre prochain journal. On passe maintenant à l'Afrique de l'Ouest et la politique au Nigeria. Le tribunal électoral du Nigeria a confirmé mercredi la réélection du président Muhammadu Buhari en rejetant les plaintes de son principal adversaire politique qui dénonçait une fraude massive pendant l'élection du 23 février 2019. Les détails avec Gilbert Tamba à Abuja.
C'est l'épilogue après les recours déposés devant le tribunal par le candidat du principal parti d'opposition, le PDP, lors du scrutin présidentiel du 23 février dernier. L'ancien vice-président Atiku Abubakar, candidat du PDP, contestait la validité de la victoire du président Muhammadu Buhari qui a déjà commencé son second mandat. Selon Atiku Abubakar, une enquête sur le serveur central de la Commission électorale nationale indépendante a montré que le PDP avait accueilli plus de 18 millions de voix, alors que les résultats définitifs de la CENI lui donnaient un peu plus de 11 millions de voix. Atiku Abubakar a également accusé le président Buhari d'avoir menti sur ses diplômes et devait donc être disqualifié. La commission électorale a nié ces accusations et les avocats de Buhari ont déclaré que le président était tout à fait qualifié. Le tribunal a jugé que l'ancien vice-président Atiku Abubakar n'avait pas fourni des preuves suffisantes de fraude qui pourraient entacher la crédibilité du scrutin. Le président Buhari peut se concentrer maintenant sur ses promesses électorales pour son second mandat, lutter contre la corruption et venir à bout du groupe Boko Haram.
Gilbert Tamba à Abuja, au Nigeria. La lutte contre les djihadistes au Nigeria maintenant, les corps de 9 soldats nigériens ont été découverts et on est toujours sans nouvelles de 27 autres portés disparus après l'attaque d'un convoi militaire lundi dans le nord-est du pays. Une embuscade revendiquée mardi par l'État islamique en Afrique de l'Ouest, une faction du groupe djihadiste Boko Haram. C'est ce qu'a affirmé mercredi soir à l'AFP un haut gradé militaire sous couvert d'anonymat en précisant que des recherches sont en cours pour retrouver les soldats manquants. L'attaque contre le convoi a eu lieu sur la route entre Damasak et Goudoumbali dans l'état de Borno et l'état islamique dit avoir fait des dizaines de morts et saisi 10 véhicules militaires ainsi que des armes et des munitions. Pour sa part, l'armée nigériane annonce avoir détruit 2 véhicules des militants islamiques. Les djihadistes ayant fait allégeance au groupe État islamique se sont séparés de Boko Haram en 2016. Et toujours concernant les violences dans le Sahel, au Mali, un soldat a été tué et 7 autres blessés mercredi dans la région de Tombouctou, dans le nord du pays, lors d'une embuscade tendue par des hommes armés. Les assaillants à bord d'un pick-up ont fait usage d'un engin explosif improvisé pendant l'attaque. L'armée malienne a riposté grâce à des renforts venus de la ville voisine de Goundam. Les militaires blessés reçoivent des soins à l'hôpital de Tombouctou. Et toujours concernant le Mali, le collectif citoyen qui bloquait depuis 4 jours l'accès à l'aéroport de Tombouctou dans le nord du pays pour réclamer la construction d'une route a levé son blocus mercredi après avoir reçu des garanties du gouvernement. Mais à Gao, la métropole du nord malien, des milliers de manifestants continuent de réclamer des mesures similaires. Abdourahmane Dia.
Un protocole d'entente a été signé entre le gouvernement et le collectif Tombouctou réclame ses droits pour la levée du blocus, selon le porte-parole du gouvernement Yaya Sangaré qui était sur place. Le gouvernement s'est engagé à reprendre au plus tard, le 25 novembre, les travaux sur la route reliant Tombouctou, Niafunké et Léré. En échange, le collectif a accepté de lever immédiatement toutes les restrictions sur les routes et le blocus de l'aéroport de la ville dite au 333 Saint. Par contre, des milliers de personnes ont manifesté à Gao contre la dégradation de l'axe routier Gao-Sévaré. Un collectif a aussi été formé à Menaka, près de la frontière avec le Niger, et mène un sit-in depuis lundi avec des revendications similaires. Toutes ces manifestations interviennent 2 semaines après la libération par le gouvernement de fonds d'urgence pour la réfection de la route entre Bamako et Kaye à la frontière avec le Sénégal qui a été bloquée pendant plusieurs jours à la fin août.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, 5 chefs d'État africains ont exhorté la Chine à financer les projets de développement initiés tant par le secteur public que privé dans le continent. C'était à l'ouverture mercredi de la 5e édition du Forum Investir en Afrique, organisé à Brazzaville par le gouvernement chinois, la Banque chinoise pour le développement et la Banque mondiale. Les précisions avec Arsène Séverin.
À travers la 5e édition de son forum consacré aux investissements en Afrique, la Chine revient proposer de nouveaux financements pour les pays en mal de développement. Cette fois-ci, l'économie numérique, aux côtés des infrastructures et de l'énergie, occupe le cœur des discussions qui se déroulent à Kintélé, au nord de Brazzaville. Léon Justi Bombo, ministre en charge de l'économie numérique du Congo-Brazzaville.
C'est une entreprise chinoise, CCC, qui va justement interconnecter le Congo avec le Cameroun, le Congo avec la République centrafricaine. Et l'équipementier Huawei va fournir les équipements de ce projet. Donc le partenariat avec la Chine, c'est un partenariat fécond. Et nous avons besoin justement de la valeur ajoutée de la Chine.
Un des orateurs au forum, l'entrepreneur Véron Manco, à qui l'Afrique doit sa première tablette, estime que la Chine est capable de soutenir les jeunes développeurs de logiciels et d'applications du continent.
La Chine absorbe le plus grand nombre d'étudiants africains et même congolais sur des formations qui concernent l'ingénierie en matière de télécommunications et du numérique. Maintenant, là où nous attendons les Chinois, c'est dans l'établissement des partenariats sur des projets, pas toujours dans les infrastructures, mais dans des projets, par exemple, de conception de logiciels, d'applications, des services.
Les opérateurs économiques et les chefs d'entreprise constituent 52% des participants à ce forum. Fort de cela, Paul Obambi, président de la Chambre du commerce de Brazzaville, appelle les gouvernants à améliorer le climat des affaires pour favoriser les investissements chinois.
Je pense que c'est à nous de créer des conditions pour que l'Afrique soit attractive. Les financements, il y en a plein dans le monde. Donc, si nous nous organisons, si le cadre structurel est en place, le cadre juridique est en place, s'il y a la sécurité des investissements, financer, c'est facile.
Sur la tribune officielle, 5 chefs d'État, Paul Kagame du Rwanda, João Manuel Lourenço de l'Angola, Félix Antoine Tshisekedi de la RDC, Faustin Archange Touadéra de la RCA et Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville ont unanimement appelé les Chinois à mettre plus d'argent dans le développement de l'Afrique. Félix Tshisekedi.
Depuis le début des années 2000, l'appétit des pays africains pour les investissements en infrastructure a conduit nombre d'entre eux à gager leurs matières premières pour assurer ce financement. Le résultat de ces expériences est aujourd'hui fort mitigé.
Avant d'ouvrir le forum, Sassou Nguesso a invité les Chinois à soutenir les jeunes entrepreneurs africains.
La maîtrise du numérique et de l'innovation technologique marquera encore, sans le moindre doute, les relations entre la Chine et l'Afrique. C'est pourquoi j'exhorte une fois de plus les investisseurs chinois à apporter un soutien significatif aux opérateurs africains de 10 secteurs.
Cette 5e édition du Forum Investir en Afrique prend fin demain jeudi. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Actualité américaine maintenant, les 10 principaux candidats à l'investiture du Parti démocrate pour la présidentielle de 2020 s'affrontent à Houston ce soir dans un nouveau débat. Les sondages donnent l'avantage à l'ancien vice-président Joe Biden. Les détails avec Eric Maninakiza.
Ce soir, les 10 candidats occuperont à Houston le même podium à la Texas Southern University, université historiquement réservée aux Noirs. Certains candidats ont déjà abandonné la course, d'autres en mauvaise posture dans les sondages qui n'ont pas satisfait aux exigences en matière de collecte de fonds ont été exclus. Le favori Joe Biden dit qu'il peut battre facilement le président sortant Donald Trump, mais il est talonné par le sénateur Bernie Sanders du Vermont et la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren de l'aile gauche du Parti démocrate. La sénatrice de la Californie, Kamala Harris, et les autres vont essayer de s'élever pour inverser la tendance. L'assurance santé, la réglementation des armes à feu, l'immigration sont des thèmes qui unissent les démocrates, mais les candidats ne s'accordent pas sur les solutions. Ils vont aussi concentrer leurs attaques sur le président Trump. D'autres débats sont prévus avant les primaires du Parti démocrate l'année prochaine.
Merci de votre attention.